10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur les ondes de Transistor. LMNSP est de retour, avec aujourd'hui une nouvelle voix dans notre émission, celle de Cyril, que vous avez pu entendre tout au long de l'année dans Transversa. Bonjour Cyril.
Bonjour Justine, et bonjour à tous.
Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tour du monde de l'actualité à deux voix. Nous commencerons par la Grèce. Où en sommes-nous depuis les dernières élections? Puis direction l'Afrique, avec la crise politique qui perdure au Mali.
Oui absolument, et juste après, nous étudierons les réactions à l'élection de François Hollande à travers le monde. Et pour terminer l'émission, nous parlerons de l'Espagne et de l'anniversaire du mouvement des indignés qui fête ses 1 an.
Ne manquez pas à la fin de notre émission le traditionnel palmarès de la semaine. On commence tout de suite avec un point sur la situation politique de la Grèce.
Oui, nous allons tenter de résumer une situation au final assez complexe en Grèce après les législatives. Comme en France, les Grecs ont voté le 6 mai, mais quant à eux, c'était pour les législatives. Plus concrètement qu'en France, deux camps totalement distincts s'opposent de manière frontale. D'un côté, les austéritaires du Parti conservateur Nouvelle Démocratie ainsi que le PASOK, le Parti socialiste panhellénique, qui a été rallié de force à la logique austéritaire, on le sait. De l'autre côté, les anti-austéritaires, venant d'un spectre politique extrêmement large, puisqu'ils couvrent le parti révolutionnaire trotskiste des travailleurs, ça ne s'invente pas, jusqu'à Obdoré, le parti néo-nazi qui vient de faire son entrée à l'Assemblée. La chute du PASOK, anciennement dirigé par le désormais célèbre Georges Papandréou, était tout à fait prévisible. Ils ont été rendus responsables de l'endettement grec donc en Grèce, et ils ont été décriés dans toute l'Europe, on le sait, car Nicolas Sarkozy en faisait même un argument de campagne. Le Parti socialiste grec s'effondre donc totalement et perd près de 30%, soit 109 sièges, par rapport aux dernières élections qui avaient lieu en 2009. C'est un coup extrêmement dur pour le PASOK, qui mettra sans doute beaucoup de temps à s'en relever. L'extrême droite également a vu la perte de tous ses députés. La véritable surprise vient de la montée en flèche du parti Syriza, traduit en français « coalition de la gauche radicale », qui gagne quant à lui 12%. C'est une sorte de front de gauche grec qui rassemble toutes les forces de gauche anti-austéritaires, et notamment néo-communistes. Son jeune leader est désormais célèbre à travers l'Europe, il se nomme Alexis Tsipras, et il est désormais le chef de la première force de gauche du pays. C'est le nouvel interlocuteur que va désormais privilégier le parti de droite Nouvelle Démocratie. Tentons de démêler le nœud du problème. Le PASOK et Nouvelle Démocratie ont réuni à eux deux 149 à l'Assemblée. Or, il en faut 151 pour pouvoir former un gouvernement. Selon la constitution grecque, c'est le parti en tête qui peut proposer un gouvernement. Nouvelle Démocratie en a fait un qui a été refusé par les autres et le parti a donc abandonné le 8 mai. Syriza tente à son tour d'en former un et abandonne le 10 mai. Le PASOK, troisième sur la liste, n'arrive pas non plus à former un gouvernement et c'est même le président qui a dû intervenir en demandant au parti gauche-démocrate, arrivé cinquième, de soutenir un gouvernement Nouvelle Démocratie PASOK. Nouveau refus. La situation est donc tout à fait bloquée, le bloc austéritaire s'oppose fermement au bloc non-austéritaire et aucun ne semble prêt à faire de compromis. La seule solution était d'organiser deux nouvelles élections, ce qui sera le cas le 17 juin.
Et on s'attend à quoi comme évolution d'ici là?
Alors, on s'attend à une évolution en faveur de Syriza, car Syriza possède désormais un capital sympathie indéniable, hein, grâce à son leader charismatique. Dans les derniers sondages qui datent du 15 mai, Syriza accroît son avance sur Nouvelle Démocratie et sur un PASOK qui est plus que jamais au fond du trou. Syriza emporterait 128 députés, plus 20 pour le Parti communiste et 14 pour Gauche démocrate. Si je fais le total, on arrive à 158 députés, soit 7 de plus que la majorité requise. Si cet écart se confirme, la gauche anti-austéritaire devrait l'emporter et avec elle, l'espoir des conservateurs de satisfaire aux exigences du FMI et de la Commission européenne. On le voit donc, l'enjeu de cette élection dépasse bien les affaires intérieures à la Grèce, alors que beaucoup craignent aujourd'hui sa sortie de la zone euro. Nous changeons à présent de continent et nous dirigeons vers le Mali.
Oui, Cyril, tout à fait, car crise politique, s'il y en a une en Grèce, ce n'est pas la seule. Celle qui sévit depuis le mois de mars au Mali est loin d'être résolue. Le pays est, selon Amnesty International, confronté à la plus grave crise depuis son indépendance en 1960. Le nord du pays, la région de l'Azawad, est toujours tenu à la fois par le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, c'est-à-dire les rebelles Touaregs qui réclament l'indépendance de leur territoire, et Ansar Dine, un groupe islamiste proche d'Acmi. Les deux groupes armés font régner un climat de terreur dans le nord du pays. Des exécutions sommaires de militaires maliens, ainsi que des viols, sont autant de violations des droits de l'homme que l'on constate. Lundi 14 mai, des manifestations ont été violemment réprimées dans la ville de Gao, donc dans le nord du pays, ville contrôlée par Ansar Dine et le MNLA. Certains manifestants ont été blessés à balles réelles. Des jeunes, notamment, étaient descendus dans les rues pour manifester leur colère face au quotidien qui leur est imposé par les groupes militaires. Plus précisément, ils étaient nombreux à contester la répression menée par Ansar Dine contre les pratiques jugées non conformes à l'islam, ou en tout cas non conformes à la vision de l'islam que véhicule ce groupe. Il leur avait en effet été interdit de jouer au football, par exemple, de regarder la télé ou de fumer des cigarettes dans la rue.
Donc, comme tu viens de le dire, le groupe islamiste Ansar Dine est bien présent dans le nord du Mali. Il vise à instaurer un charia dans une zone aussi étendue que possible, je l'imagine. Mais si je ne me trompe pas, il y a également des rebelles Touaregs qui, quant à eux, aspirent plutôt à la fondation d'une république laïque en Azawad.
Oui, tout à fait. Et tu soulèves là la question cruciale du rapport de force entre les deux groupes armés qui tiennent tous les deux le nord du Mali en ce moment. Leurs objectifs divergent, comme tu le soulignes. Cependant, ils ont profité du désordre survenu après le coup d'État du 22 mars, ayant renversé le président, pour mener ensemble une offensive dans le nord du pays. Les tensions entre les deux formations sont néanmoins perceptibles, malgré des tentatives de rapprochement. Le MNLA souhaite convaincre Yad Aghali, le chef d'Ansar Dine, d'abandonner son partenaire Acmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et d'abandonner aussi son projet justement d'instaurer la charia. Le MNLA affiche en effet comme objectif de débarrasser l'Azawad de la présence d'Acmi. Mais Ansar Dine sans Acmi, est-ce envisageable? C'est là une autre question, la question des rapports entre Ansar Dine et Acmi. Selon un cadre du groupe Ansar Dine, Acmi nous a aidés à battre l'armée malienne au nord, ce sont nos partenaires et ils ont toute leur place ici. Ansar Dine n'appartient cependant pas à Acmi, mais la force des liens entre les deux groupes reste un sujet de débat. Selon Serge Daniel, un journaliste béninois installé au Mali et ayant publié un livre faisant suite à 4 ans d'enquête qu'il a mené sur Acmi, partout où vous avez Ansar Dine, vous avez Acmi. Et il en tire la conclusion que Acmi est aujourd'hui le principal groupe armé dans le nord du Mali. Cette assertion contraste fortement avec ce qu'affirment les Touaregs du MNLA lorsqu'ils disent être le groupe dominant dans la région et le groupe dominant dans le rapport de force entre les différentes formations.
Oui, la situation est donc plus que complexe. Mais je me demandais quelles sont les réactions alors, des autorités maliennes du Sud face à ces évolutions plus récentes dans le nord du pays.
Eh bien, justement, difficile pour Bamako de prendre des mesures significatives ou efficaces, puisque dans le Sud aussi, on est toujours face à une situation de crise et d'instabilité politique. Et tant que cela dure, il y a peu de chances pour que les choses s'apaisent dans le Nord. Lundi 14 mai, Amadou Ayasanogo, le chef de l'ex-junte militaire qui était aux commandes du pays entre le coup d'État du 22 mars et le transfert du pouvoir aux civils qui a eu lieu à la mi-avril, a déclenché la surprise générale en proposant que se tienne une convention nationale au cours de laquelle devait être désigné le président de transition pour l'année à venir. Alors que la date fixée pour la fin de l'intérim du président actuel, Dion Kunda Traoré, n'était que le 22 mai. Sanogo voulait donc avancer la date de fin de mandat du président actuel, cherchant en fait à éviter que ce dernier ne reste président pour la période à venir. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui, depuis le début de la crise, on a pu l'observer, joue un rôle important, un rôle de médiateur entre les différents groupes, a accusé l'ex-junte et ses alliés civils de bloquer le processus de transition politique et a même menacé de renouveler les sanctions contre les putschistes. Ces sanctions avaient été levées au moment du transfert de pouvoir vers les civils.
Mais alors, le transfert de pouvoir a bien été fait, il y a même eu un nouveau président et un nouveau premier ministre qui ont été nommés. Donc pourquoi la junte a encore son mot à dire dans les décisions politiques ?
Plus que son mot à dire, ni ses agissements, ni son influence n'ont cessé, comme tu le soulignes. Par exemple, il y a peu, des détentions arbitraires ont été effectuées par des proches de l'ex-junte. Des personnalités politiques proches de l'ancien président ont été emprisonnées sans jugement. Des détentions qui ont été largement critiquées dans le pays et à l'extérieur. Cependant, les autorités politiques en place actuellement ne peuvent en fait pas tout simplement écarter les militaires de la junte, puisque ceux-ci seront utiles, nécessaires même, pour la résolution de la crise du Nord. Le président actuel a cependant refusé la convention nationale proposée par Sanogo, prenant donc ses distances avec l'ex-chef de la junte militaire, en arguant que ce qu'il proposait n'était pas une solution pour sortir de la crise. Il reste donc à voir ce qui surviendra le 22 mai au moment de la fin de l'intérim.
Les réactions à l'élection de François Hollande en France furent très nombreuses et convenues. Entre d'un côté les vainqueurs qui s'autocongratulent et les vaincus qui se cherchent des excuses, tout en souhaitant bonne chance au futur président, dans un élan soudain de fraternité républicaine retrouvée après la campagne. Les réactions venues de l'étranger, en revanche, sont bien plus diverses et sont même parfois surprenantes. Elles révèlent les attentes, les craintes et les espoirs des partenaires de la France, et elles décrivent à elles seules une géopolitique du monde. Je vous propose en quelque sorte de psychanalyser les grands dirigeants de la planète au travers de leur réaction à l'élection de François Hollande et de lire au travers des lignes de leur déclaration. Avant l'élection de François Hollande, l'Europe était divisée elle-même et surtout elle s'opposait au reste du monde. Une partie de l'Europe attendait un leader pour porter le fer contre Angela Merkel et l'austérité décrétée par l'Allemagne. Quant à l'autre partie de l'Europe, elle ne voulait pas en entendre parler et était de facto assez sensible à l'élection de François Hollande. Les autres pays du monde ont souvent suivi la campagne de loin. Hillary Clinton a même avoué qu'Obama et elle-même avaient été très préoccupés par la gestion du conflit en Afghanistan et qu'ils n'avaient pas suivi la campagne française. Ceci explique donc l'éventail très large de réactions à l'élection de François Hollande qui vont de l'enthousiasme béat allégreur non feinte. J'ai classé ces réactions en 6 groupes et nous allons en brosser le spectre en commençant par les plus enthousiastes. Première catégorie, oui la plus enthousiaste, celle que j'ai nommée la catégorie des espérants. L'élection d'Hollande les a tout simplement ravis pour deux raisons principales. La Belgique, menée par son premier ministre Elio Di Rupo, qui était d'ailleurs présent lors de la fête de la Bastille, a déclaré « C'est un moment de fête, c'est un ami » qui devient président de la République. La Belgique est tout simplement ravie de voir qu'un deuxième chef d'État se prononce publiquement pour l'ajout d'un volet concernant la croissance dans le mécanisme européen de stabilité. Idem en Grèce, où le parti Syriza, dont vous connaissez désormais toute l'histoire, qui est arrivé deuxième, a accueilli la nouvelle avec beaucoup de ferveur, se félicitant que les propos austéritaires aient trouvé un écho en France. En Afrique, l'espoir est également de mise, mais ici c'est un autre espoir, l'espoir de la rupture de la France-Afrique que François Hollande a promis. La RDC, le Togo et le Cameroun qui plus est socialiste, puisque mené par le SDF, le Social Democrate Front, le Cameroun par exemple se félicite donc de l'élection d'un camarade selon leurs propres propos. Il réclame plus d'humanité, moins de condescendance et un soutien sans faille aux politiques africaines, et il pense, je les cite, que la relation Cameroun-France aura une dimension plus humaine. Deuxième famille de réactions, la réaction de ceux que j'ai appelés les contents. Ils viennent d'une même famille politique, ils sont impatients de tisser des liens avec un partenaire dont les valeurs leur sont proches, et on voit par là que différents blocs politiques demeurent 20 ans après la fin de la guerre froide en raison de la solidarité de partis frères à travers le monde. Ed Miliband, leader du Labour Party, chef de l'opposition en Angleterre, se dit impatient de travailler avec François Hollande, qu'il avait d'ailleurs rencontré à Londres alors que David Cameron avait choisi de le snober. Celui que l'on surnomme Ed le Rouge, alors qu'il est pourtant rose pâle, compte sur une réussite du quinquennat d'Hollande, sans doute pas pour changer la donne en Europe, mais plutôt pour donner un élan à sa propre candidature aux élections de 2014. Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, est également ravie de l'élection de François Hollande. Elle déclare « J'ai suivi avec un grand intérêt ses propositions pour surmonter la crise que connaît l'Europe, avec de la responsabilité macroéconomique, mais surtout avec des politiques qui favorisent la croissance, l'emploi et la prise en compte de la justice sociale. » Elle en fait beaucoup, à n'en point douter, mais c'est le signe d'une volonté d'accentuer la coopération du Brésil avec l'Europe. Elle cherche visiblement à renforcer le contact diplomatique avec la France, et elle essaye de forger une bonne entente avec Hollande sur le modèle de celle qu'avait forgé Lula avec Nicolas Sarkozy. Hugo Chavez en fait encore plus, comme d'habitude. Il déclare qu'avec la victoire de François Hollande, le peuple français a réaffirmé sa profonde vocation républicaine qui fait primer la volonté politique sur la fatalité des marchés, la sensibilité sociale sur les recettes financières et la justice et la solidarité sur l'exclusion. C'est le genre de soutien controversé à souhait dont le nouveau président se serait sans doute bien passé et il ne devrait pas bouleverser les relations entre la France et le Venezuela qui depuis 10 ans sont absolument au point mort. Troisième catégorie, ceux qui s'en foutent. Deux grandes puissances, notamment le Japon et la Russie, font preuve de politesse. Une politesse qui ne doit rien cacher et qui trahit un profond désintérêt pour les élections françaises et même pour les questions européennes en général. Monsieur Fujimura pour le Japon se fend d'une remarque pitique. Nous croyons que la crise de la dette européenne est en passe de sortir de la situation critique où elle se trouvait l'an dernier, mais cela ne nous permet pas de faire preuve d'optimisme. La Russie, quant à elle, a émis des félicitations par la voix de Vladimir Poutine. Les Russes sont plutôt déçus car Sarkozy avait été un partenaire politique avantageux et un allié loyal, mais à vrai dire, ils sont plus désintéressés qu'autre chose, pour preuve, au futur sommet du G8, ce qui aurait constitué une première occasion de rencontrer Hollande, Poutine s'est désisté et envoie Dimitri Medvedev. Quatrième catégorie, les félicitations assez surprenantes. D'une manière générale, on l'a vu, les mouvements de gauche, les mouvements progressistes ou démocrates à travers le monde ont témoigné leur sympathie quant à l'élection de François Hollande. Mais certains ont eu une réaction assez inattendue. Tony Blair, par exemple, ne s'est pas manifesté et on peut supposer que son amitié avec Sarkozy n'y est pas pour rien. Quant à Barack Obama, il a invité, certes, Hollande à un dîner qui devra préparer le sommet de l'OTAN, mais il a toutefois rappelé dans son message de félicitations son désaccord avec lui sur le retrait des troupes d'Afghanistan et il a rappelé également l'ampleur du défi qui se trouve devant François Hollande. On pouvait faire mieux comme message de félicitations. Cinquième catégorie que j'ai choisi d'intégrer, les soutiens insolites provenant de célébrités ou de personnalités du monde du spectacle. Sacha Baron Cohen, célèbre pour son rôle de Borat, a décidé de se faire de la pub pour son prochain film et a félicité François Hollande lors de son élection, ainsi que le chanteur Mika et même Moby, qui a déclaré « The Sarkozy era is done ». La sixième catégorie, sans doute la plus fournie en Europe, est la catégorie de ceux qui serrent les dents. Ce sont ceux qui ont combattu Hollande durant la campagne ou qui ne sont pas du tout de la même famille politique. Ils ont effectué une prise de contact diplomatique, de manière justement très diplomate, et beaucoup ont eu du mal à masquer leur inquiétude. Ils ont tout simplement peur que l'Europe de l'austérité qu'ils ont eux-mêmes mise en place soit de plus en plus contestée, et ils tentent immédiatement de calmer le jeu et se montrent donc très polis à l'égard de François Hollande. Je les ai encore classés par ordre croissant dans l'intensité du serrage de dents. Cameron avait publiquement soutenu Sarkozy et il avait refusé de rencontrer François Hollande. Il affirme que l'amitié franco-britannique doit être renforcée ainsi que les relations entre la France et l'Angleterre. Pour l'instant, on n'aborde donc pas encore les sujets qui fâchent et je dis bien pas encore. Un peu plus aigre tout de suite, l'Espagne de Mariano Rajoy. Le communiqué vient de l'entourage ministériel et non de Rajoy lui-même qui n'a pas pris la peine de s'exprimer. L'Allemagne, quant à elle, dont on attendait beaucoup de la réaction, puisque Angela Merkel avait fermement soutenu Nicolas Sarkozy, l'Allemagne loue les qualités de François Hollande et assure que Berlin traitera avec lui comme elle a traité avec Nicolas Sarkozy, comme s'il était besoin de préciser que quel que soit le président élu, il est nécessaire de traiter avec lui. L'Italie de Mario Monti remporte la palme de l'aigreur, le communiqué est diplomate là encore, mais on a droit à une petite leçon d'économie en prime, avec une exposition des moyens de réduire rapidement la dette. C'est un moyen de dire tout simplement à François Hollande que l'Italie suivra sa propre voie en matière de gestion de la crise.
Merci Cyril pour ces portraits riches et contrastés. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il y a quelque chose que François Hollande devrait en tirer pour les années à venir?
Je ne sais pas si François Hollande directement peut tirer des conclusions de ses réactions, mais nous, simples observateurs, nous pouvons constater d'abord que ses réactions, pour une part, sont assez prévisibles et qu'elles montrent bien que, d'une manière générale, l'élection d'Hollande n'a pas bouleversé le jeu géopolitique. Ses réactions confirment en revanche une chose dont on se doutait, les affaires de la vieille Europe n'intéressent plus grand monde, notamment les États-Unis, le Japon et la Russie. Nous retournons à présent sur le vieux continent pour s'intéresser au mouvement des indignés qui fêtait son premier anniversaire le 15 mai dernier.
Effectivement, c'était le 15 mai 2011, à Madrid, que plus de 20 000 personnes avaient manifesté pour dénoncer le pouvoir de la finance, pour dénoncer la corruption, pour dénoncer la myopie des autorités politiques face aux souffrances sociales nées de la crise. Le mouvement du 15M, comme on l'appelle là-bas, initié par le collectif Democracia Realia, avait alors occupé la place de la Puerta del Sol pendant un mois. Mardi dernier, un an après donc, les indignés sont redescendus dans les rues à l'occasion de marches revendicatives et d'assemblées populaires. Dès dimanche, en fait, ils s'étaient installés sur la Puerta del Sol, mais cela ne s'est pas fait sans friction. Les autorités ont d'emblée interdit les manifestations après 22 heures. Cette interdiction n'a par la suite pas été respectée puisque dans la nuit faisant suite à la journée du 15 mai, les manifestations et les festivités ont continué bien après 22 heures. Mais ce n'est pas tout. 18 personnes dimanche matin ont été interpellées lors d'une opération policière d'évacuation de la place et 9 d'entre elles sont comparues devant des juges.
Mais alors, que restait-il du mouvement des indignés que je vois bien malmené, là, un an après son éclosion?
Eh bien, le mouvement, comme on a pu l'observer au cours de l'année, a donné suite à d'autres mouvements dans différents pays. Une diffusion internationale qui a commencé à peu près à l'automne 2011, par exemple avec Occupy Wall Street et Occupy London. Mais il est vrai qu'il semblerait que ces grands rassemblements se soient essoufflés avec les mois, même si leurs revendications et le message de contestation pacifique du système capitaliste ainsi que de ses effets sur les moins bien armés pour s'y faire une place aient fait leur chemin dans les mentalités et dans les opinions des populations. On peut évoquer toutefois le mouvement Occupy Frankfurt. Ce campement, présent depuis 7 mois, ce qui n'est quand même pas négligeable, devant la Banque Centrale Européenne, a été évacué tout récemment, mercredi 16 mai. La date de cette évacuation n'est peut-être pas anodine puisqu'elle tombe en même temps que les festivités pour l'anniversaire du mouvement à Madrid. Cette évacuation est officiellement provisoire puisque le camp est autorisé jusqu'à fin mai. Mais ses membres espèrent ensuite pouvoir prolonger la durée d'autorisation du campement comme ils l'ont fait depuis le mois d'octobre.
Mais alors en quoi les choses diffèrent-elles en Espagne par rapport à la situation en Allemagne comme tu viens de la décrire?
Eh bien, outre ces manifestations, ou ces occupations, ou ces campements devant des institutions financières, comme on a pu en voir, et ce qui est peut-être le plus impressionnant lorsque c'est véhiculé par des images ou des vidéos dans les médias, le mouvement en Espagne semble avoir réussi une meilleure implantation dans la société civile et avoir donné lieu à des manifestations d'une forme différente. Un grand nombre de réunions de quartier, d'initiatives de coopération locale, d'associations d'entraide ou encore d'assemblées de débats ont lieu chaque semaine à travers le pays et ce depuis l'année dernière, le début du mouvement et encore jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces initiatives sont nées et découlent véritablement du mouvement des indignés. Les citoyens qui y participent cherchent à se réunir, à débattre, que ce soit en face à face mais aussi sur les réseaux sociaux qui jouent encore un rôle important, afin d'imaginer des solutions aux conséquences de la crise et pour voir comment chacun peut, à l'échelle de sa vie, agir pour trouver des solutions aux failles du système économique. En Espagne, donc, il semblerait bien que le mouvement des indignés n'est pas mort.
Eh bien, on suivra donc avec grand intérêt l'évolution des manifestations à Madrid et le dialogue ou non des indignés avec les autorités. Tout de suite, pour terminer notre émission, passons au palmarès de la semaine.
On commence avec le mot de la semaine que va nous présenter Cyril.
Ce mot de la semaine, c'est héros, le nom de famille de notre Premier ministre, vous l'aurez reconnu. Il devra en effet peut-être s'attendre à quelques surprises lors de ses premiers pas diplomatiques, et notamment dans le monde arabe. En effet, dans certains dialectes arabes, son nom de famille, s'il est prononcé Eiro, signifie « son pénis » en langage familier. Pour éviter toute situation embarrassante, plusieurs solutions ont été envisagées. Le Quai d'Orsay a pensé traduire le nom de famille du Premier ministre de façon à ce que toutes les lettres soient prononcées, soit Eirolt. Comme alternative, le journal Al Bayan de Dubaï a tout simplement choisi d'utiliser son prénom, Jean-Marc. La phrase de notre palmarès.
Je suis reconnaissant à Borat d'avoir contribué à attirer les touristes au Kazakhstan, a déclaré il y a peu le ministre des Affaires étrangères kazakh, Yerzan Kazikanov. Depuis la sortie du film, dont nous avons parlé rapidement tout à l'heure avec Cyril, les demandes de visa pour le pays ont été multipliées par 10, et le film satirique de Sacha Baron Cohen aurait contribué significativement à cette augmentation. Et enfin, terminons avec le chiffre de la semaine.
400 000, je veux parler de 400 000 dollars par an, c'est le salaire que touche le président américain Barack Obama, soit 22 000 euros par mois. Le président Nicolas Sarkozy avait augmenté le sien pour atteindre 19 000 euros par mois et François Hollande gagnera désormais 13 500 euros par mois après avoir baissé son salaire de 30%. Voilà une information de la plus haute importance.
Tout à fait, merci pour ce chiffre Cyril. Chers auditeurs, nous touchons maintenant à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à toi Cyril d'être venu nous rejoindre à LMNSP. À très bientôt sur nos ondes.
Et ne loupez pas non plus cette semaine un débat houleux entre différents représentants des partis politiques français. Merci Justine d'avoir voulu ma présence dans cette émission et n'oubliez pas que le monde ne suffit pas.